Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science Chrétienne Indépendante de Plainfield. Située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 21 juillet 2024. Sujet, vie. Texte d'or, Romains. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Lecture alternée, Éphésiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La Bible. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouble. » En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne « Science et santé avec la clé des Écritures » de Mary Baker Eddy. Nous devrions nous rappeler que la vie est Dieu et que Dieu est omnipotent. L'homme mortel ne pourra jamais s'élever au-dessus des débris temporels de l'erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d'apprendre que Dieu est la seule vie. La croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincu par la compréhension de ce qui constitue l'homme en tant qu'image de Dieu. L'être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. L'infini ne commença jamais et ne finira jamais. L'entendement et ses formations ne peuvent jamais être annihilés. l'homme n'est pas un pendule oscillant entre le mal et le bien, la joie et la peine, la maladie et la santé, la vie et la mort. La vie et ses facultés ne se mesurent pas au calendrier. Le parfait et l'immortel sont la ressemblance éternelle de leur Créateur. Mesurer la vie aux années solaires, c'est spolier la jeunesse et revêtir de laideur la vieillesse. Le soleil radieux de la vertu et de la vérité coexiste avec l'être. L'état d'homme en est l'éternel midi dont l'éclat n'est jamais obscurci par un soleil couchant. À mesure que le sens physique est matériel, le sens éphémère de beauté s'efface. La splendeur de l'esprit devrait se lever sur le sens ravi avec des magnificences resplendissantes et impérissables. Ne faites jamais mention de l'âge. Les données chronologiques ne font pas partie de la vaste éternité. Les registres des naissances et des décès sont autant de conspirations contre l'homme et la femme. S'ils ne commettaient pas l'erreur de mesurer et de limiter tout ce qui est bon et beau, l'homme vivrait plus de 70 ans tout en conservant sa vigueur, sa fraîcheur et sa promesse. L'homme gouverné par l'entendement immortel est toujours beau et sublime. Chaque année, succédant à une autre, déroule la sagesse, la beauté et la sainteté. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l'existence sur la beauté, la fraîcheur et la continuité plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude. La beauté, de même que la vérité, est éternelle. Mais la beauté des choses matérielles passe, éphémère et fugitive, comme la croyance mortelle. La coutume, l'éducation et la mode forment les normes passagères des mortels. L'immortalité, exempte de vieillesse ou de décrépitude, à une gloire qui lui est propre, la splendeur de l'âme. Les hommes et les femmes immortels sont des modèles de sens spirituel, façonnés par l'entendement parfait et reflétant ces conceptions plus hautes de beauté qui surpassent tout sens matériel. Le charme et la grâce sont indépendants de la matière. L'être possède ses propres qualités avant qu'elles soient perçues humainement. La beauté est un élément de la vie. Elle demeure pour toujours dans l'entendement éternel et reflète les charmes de sa bonté en expression, en forme, en contour et en couleur. C'est l'amour qui colore les pétales d'une variété infinie de teintes, qui étincelle dans le chaud rayon de soleil, qui trace sur le nuage son arc de beauté, qui orne la nuit de gemmes stellaires et revêt la terre de beauté. Ce qui embellit une personne est un bien médiocre substitut des charmes de l'être, qui, resplendissant et éternel, éclipse la vieillesse et la décrépitude. Le secret de la beauté, c'est d'avoir moins d'illusions et plus d'âme. C'est se retirer de la croyance à la douleur ou au plaisir corporel pour se réfugier dans le calme immuable et la glorieuse liberté de l'harmonie spirituelle. L'amour ne perd jamais de vue la beauté. Son auréole repose sur son objet. On s'étonne qu'un ami puisse jamais paraître autrement que beau. Les hommes et les femmes d'un âge plus mûr et d'une expérience plus étendue devraient parvenir à la santé et à l'immortalité au lieu de se laisser choir dans les ténèbres ou la tristesse. L'entendement immortel nourrit le corps de fraîcheur et de beauté céleste, lui fournissant de belles images de pensée et détruisant les maux des sens que chaque jour rapproche de plus en plus de la tombe. Comme le Christ, la vie est la même hier, aujourd'hui et éternellement. L'organisation et le temps n'ont aucun rapport avec la vie. Si l'erreur dit « j'ai perdu la mémoire », contredisez là. Aucune faculté de l'entendement ne se perd. Dans la science, tout l'être est éternel, spirituel, parfait, harmonieux en toute action. La vue, l'ouïe, tous les sens spirituels de l'homme sont éternels. On ne peut les perdre. Leur réalité et leur immortalité sont dans l'esprit et dans la compréhension, non dans la matière, d'où leur permanence. La vie est impérissable. La vie est l'origine et le but suprême de l'homme, à laquelle il n'est jamais possible d'atteindre par la mort, mais à laquelle on arrive en suivant le sentier de la vérité, tant avant qu'après ce qu'on appelle la mort. Il y a plus de christianisme à voir et à entendre spirituellement que matériellement. Il y a plus de science dans l'exercice perpétuel des facultés de l'entendement que dans la perte de ces facultés. Elles ne peuvent se perdre alors que l'entendement subsiste. La compréhension de ce fait donna la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, il y a des siècles, et répétera cette merveille. À mesure que les mortels commencent à comprendre l'esprit, ils abandonnent la croyance à une existence réelle en dehors de Dieu. L'entendement est la source de tout mouvement, et il n'y a pas d'inertie qui retarde ou arrête son action perpétuelle et harmonieuse. Les Écritures disent « Ceux qui se confient en l'Éternel courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce n'est pas dénaturer la signification de ce passage que de l'appliquer littéralement au moment de fatigue, car le moral et le physique ne font qu'un quant à leur résultat. Lorsque nous nous éveillerons à la vérité de l'être, toute maladie, douleur, faiblesse, fatigue, peine, tout péché et la mort seront inconnus et le rêve mortel cessera pour toujours. Ressentons la divine énergie de l'esprit qui nous mène au renouvellement de la vie et ne reconnaît aucune puissance mortelle ou matérielle capable de détruire. La vie est, a toujours été et sera toujours indépendante de la matière. Car la vie est Dieu et l'homme est l'idée de Dieu. Il n'est pas formé matériellement, mais spirituellement, et il n'est pas sujet à la décomposition et à la poussière. Le psalmiste dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel, ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.